What exactly does a lesbian look like?
I'm a lesbian like a truck.
Queen, come on, can you?
Here come the lesbians. Here come the leading lesbians.
Je suis queen, come on, can you?
Tu cherches les autres? Je t'ai vu les regarder. Ils sont déjà partis. T'es nouveau?
Où on est arrivé hier?
Moi c'est Lisa, j'habite ici. T'es timide?
Je suis pas timide.
Tu veux pas me dire comment tu t'appelles?
Michael, je m'appelle Michael.
Il y a Lisa qui est venue te chercher. Elle est venue chercher Michael. Pourquoi tu fais ça?
Je fais rien.
Tu fais croire que t'es un garçon.
Ta gueule.
Je vais dire à maman.
Non, tu diras rien.
Si je t'emmène, tu diras rien. Je t'emmènerai tous les jours, ok?
Il n'y a jamais eu d'époque sans licorne. Nous vivrons éternellement. Nous sommes aussi anciennes que le ciel, que la lune. On peut nous chasser, nous prendre au piège. Nous pouvons même être tués si nous quittons nos forêts. Mais nous ne disparaissons pas.
Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça?
Je sais pas.
Viens ici. T'as dit à tout le monde que t'étais un garçon? T'as menti et t'as entraîné ta sœur là-dedans? Pourquoi t'as fait ça? Hein? Va dans ta chambre.
If you go down to the woods today, you're in for a big surprise. If you go down to the woods today, you better go in disguise. For every dyke that ever there was will gather there for certain, because today's the day the lesbians have their pick.
Happy lesbian.
Every lesbian who's been good is sure of a treat today.
Today there's lots of marvelous things to eat and wonderful games to play.
To play beneath the trees where nobody sees, they'll hide and seek as long as they please, 'cause that's the way the lesbians have their picnic.
Je m'appelle Mathilde Forget, je suis écrivain et compositrice. J'ai sorti deux romans, le premier qui parle de la folie et qui s'appelle « À la demande d'un tiers » et le deuxième qui parle de la culpabilisation des femmes qui portent plainte et qui s'appelle « De mon plein gré ».
Bonjour auditrices, auditeurs, et merci à Mathilde Forget, que vous venez d'entendre, d'être mon invitée pour cette 30e émission de Du Poil Sous les Bras. Une émission réalisée en direct dans les studios de Saint-Ferréol, à Cré, dans la Drôme. Et merci à Alexane qui assure la technique. Une émission un peu particulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une journée de lutte contre les LGBT-phobies. Alors de quoi allons-nous parler avec Mathilde Forget? Eh bien d'enfance lesbienne, des nôtres, de celles des autres, de nos enfances de tomboys, ces petites garçonnes réussies que nous étions peut-être à l'époque avant de devenir des lesbiennes épanouies ou pas. Vous aurez peut-être reconnu dans le lancement de cette émission des extraits du film de Céline Sciamma, Tomboy, accompagné d'un medley de 2014, ça nous réjouit pas, réalisé par les copines du collectif Gwyn comme un camion. Les enfances lesbiennes, enfance ignorée ou oubliée, enfance dont on nous a parfois privé, enfance décalée ou moment privilégié, Les enfances lesbiennes, ce sont celles de vos mères, de vos sœurs, de vos femmes, de vos amis, celles qu'ont vécu tant de femmes et dont on parle si peu. Et bien dans Du poil sous les bras, on a choisi d'en parler avec Mathilde Forget et avec des amis qui se sont prêtés au jeu de partager avec nous un souvenir de leur enfance lesbienne.
Du poil sous les bras.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Alors, Mathilde Forget, tu es l'autrice de deux ouvrages, tu viens de le dire, à la demande d'un tiers et de mon plein gré, qui sont parus chez Grasset. Le dernier, de mon plein gré, est paru en mars 2021. Et avec toi, nous allons parler aujourd'hui enfance lesbienne, ce qui n'est pas le sujet de tes deux premiers romans. Pourquoi t'intéresses-tu et pourquoi est-ce que tu avais envie qu'on en parle aujourd'hui des enfances lesbiennes ?
Eh bien, j'avais envie parce que j'avais l'impression qu'il y avait peu de récits qui existaient dans la littérature ou dans le cinéma. Et que pourtant, dès que j'en parlais un peu avec mes copines lesbiennes, on avait plein d'exemples et de souvenirs qui nous ont énormément marqués. Soit des souvenirs, comme tu le disais, d'enfance un peu tomboy, soit de vrais souvenirs en fait amoureux. Et j'avais aussi envie qu'on sorte de l'idée aussi pour invisibiliser nos enfances lesbiennes où on dit oui, mais enfin les petites filles elles font toujours ça entre elles, elles s'embrassent, mais ça veut rien dire. Sauf qu'en fait moi je sais très bien quand j'étais amoureuse d'une petite fille et pas d'une autre par exemple. Et est-ce que ça a provoqué en moi et que ça avait du sens et que c'était important ? Et donc oui, j'avais envie qu'on échange des souvenirs. Et que parfois, c'est juste très important de faire exister des récits, quoi. C'est pas plus que ça, mais c'est déjà... Moi, j'ai toujours les larmes aux yeux, en fait, quand j'entends des souvenirs, où je me dis « Ah, mais voilà, moi aussi, c'était ça ». C'est tellement réconfortant quand on se dit qu'on n'était pas toute seule, parce qu'au moment donné où on a l'impression que, voilà, on va être un petit garçon, on sait pas, on est dans une telle solitude... Donc de pouvoir consoler les petites filles qu'on était maintenant en se racontant adultes que en fait, nous aussi on était pareil, je trouve ça important.
C'est-à-dire qu'en tant que lesbienne, on a eu du mal déjà à être visibilisée en tant qu'adulte, femme lesbienne, de dire lesbienne dans les médias, d'entendre parler de lesbienne. Mais par contre l'enfance c'est vraiment encore un sujet quasiment inexploré de par les sociologues, la littérature, les médias, le reste. Enfin, on en parle quasiment jamais.
Non, parce que comme si ça devait pas exister, comme si, voilà, effectivement, les petites filles, bon, elles sont un peu bagarreurs, elles sont un peu ceci, elles veulent être comme le grand frère. Mais en fait, on donne toujours une autre explication, et en fait, ça pourrait être juste que c'est une petite fille lesbienne, en fait.
Ma petite histoire de petite lesbienne. Eh bien, en fait, quand j'étais petite, je ressemblais à un petit garçon parce que, genre, en gros, en CE2, j'avais dit à ma mère, maman, je vais me couper les cheveux comme le petit garçon dont j'étais amoureuse. Parce qu'en fait, en tant que petite lesbienne, j'étais amoureuse des garçons. Hein. Moi, j'étais amoureuse des garçons, j'étais pas amoureuse des filles, contrairement à d'autres. Mais en fait, je voulais être comme eux. Je voulais être comme eux, je voulais être leur meilleur pote, quoi. Et bref, j'avais dit, maman, je vais avoir les cheveux courts, comme Cyril. Elle m'a dit, ok, elle m'a emmené chez le coiffeur, et j'avais une petite coupe de garçon, j'étais un petit garçon. Et donc, je passais pour un garçon un peu partout, à la boulangerie, dans les toilettes des stations-service, sur l'autoroute, partout, jeune homme, machin. Et un jour, un dimanche, je sais plus quand, on est monté au stade avec mon père et ma sœur, et eux, ils ont fait des footings autour du stade, en fait. Ils faisaient des footings autour du stade, et au milieu du stade, il y avait deux gamins de mon âge, des garçons, qui jouaient au foot, et donc je suis allée m'incruster, et je me suis présentée comme étant Nicolas, ce qu'ils ont bien sûr complètement cru. Et du coup, en loose day, quand même, je suis allée voir mon père et ma sœur qui couraient, je leur ai dit « Oui, c'est pour vous dire que je leur ai dit que je m'appelais Nicolas !» Et donc, ils ont dit « Ah, ok, d'accord. » Ils ont continué à courir, et puis moi, j'ai continué à faire du foot avec les gamins au milieu, quoi. Et à la fin de leur footing... Bah, ils m'ont appelé parce qu'on partait, et là mon père a pas pu s'empêcher, il avait un sourire jusqu'aux oreilles de gueuler dans tout le stade « Nicolas, on y va !» Voilà, donc en gros de jouer le jeu quoi. de jouer le jeu, ce que je trouve quand même assez cool rétrospectivement. De toute façon, il faut savoir que mon père, il m'a toujours appelé Johnny. Donc comme ça les choses sont claires. Mais tout ce que je veux dire, c'est que tout ça n'est pas une histoire de transition. Enfin, pas encore pour l'instant, pas pour le moment, mais plutôt ça a fait que je suis devenue une grosse lesbienne. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur mon lesbianisme ? Non, mais ouais, j'étais pas attirée par des filles quand j'étais petite. Mais je voulais avoir la même liberté que les gars. Et je me rendais compte qu'en tant que fille, c'était pas trop possible. Donc j'essaie de leur ressembler, quoi.
Et merci à Jo pour ce premier témoignage. Vous en aurez d'autres tout au long de cette émission, des témoignages d'amis lesbiennes qui ont accepté de se prêter au jeu, de raconter un souvenir de leur enfance lesbienne, de ce que ça fait d'être une petite enfant, de sentir qu'on est peut-être un peu différente et de pas forcément bien le comprendre, en tout cas de voir que les adultes, eux, n'y comprennent souvent rien. Et Jo, c'est vraiment un peu l'histoire typique de quand on est tomboy. Et Tomboy, le film de Céline Sciamma dont vous avez écouté des extraits, c'est l'histoire justement d'une petite fille qui déménage et lorsqu'elle croise les autres petits-enfants de son nouveau quartier, eh bien, il y a quiproquo, on la prend pour un garçon parce qu'elle a un physique androgyne et elle ne dément pas, un peu comme Jo qui est ok pour se faire appeler Nicolas. Et Céline Sciamma a ces mots très justes pour parler de son film, pour parler de Michael, elle dit « elle ». Laure, la petite fille qui se fait appeler Michael, elle saisit cette opportunité de vivre une autre vie. Et c'est ça qui est passionnant dans les souvenirs, les témoignages et dans nos enfances lesbiennes, c'est de voir à quel point ce désir de vivre une autre vie est présent. Parce qu'on sait qu'en tant que petite fille, on va être un peu étriquée peut-être quelque part. Est-ce que c'est ça, Mathilde, qui toi t'a intéressée aussi dans ces enfances lesbiennes, ce désir de vouloir vivre une vie améliorée, une vie augmentée, un peu comme la réalité augmentée, de savoir que si on passe du côté des petits garçons, on va vivre plus de choses.
Oui, il y a vachement ça qui revient dans les témoignages, qu'effectivement, c'est avant tout, c'est pas un désir d'être un garçon, en fait. Bon, ça dépend des enfances, mais souvent, les témoignages moi que j'ai reçus, c'était plus que rapidement, en fait, quand t'es une petite fille, tu comprends que, voilà, si tu te fais accepter par eux, tu vas pouvoir faire plus de choses dans la cour, tu vas pouvoir aller à l'aventure, tu vas pouvoir t'habiller d'une manière qui te permet de grimper dans les arbres, tu vas pouvoir faire plus de choses, c'est effectivement... tu te rends compte que si t'es un petit garçon, tu vas pouvoir avoir plus de liberté. Et après, ce qui m'amusait, c'est de penser à moi, mon enfance, et de me dire qu'effectivement, j'étais un peu comme un petit garçon aussi, mais je crois que ce qui était assez clair pour moi, c'était pas la question de la liberté, mais c'était vraiment la question des filles. Je me disais, ok, donc en fait, dans toutes les histoires, le personnage qui peut embrasser la fille, c'est un garçon. Et je crois que moi, je voulais être un garçon, pas spécialement pour pouvoir jouer au foot ou grimper dans les arbres plus que les petites filles, mais pour pouvoir embrasser la fille, quoi. Parce que je croyais qu'il fallait être un garçon absolument pour pouvoir embrasser la fille.
Alors les histoires de vouloir se croire petit garçon parce qu'on est amoureuse d'une petite fille, on en a eu beaucoup aussi, des témoignages de nos amis qui racontent un peu ça, comment on est amoureuse et comment, comme du coup, c'est un impensé de pouvoir être amoureuse en tant que petite fille d'une fille, eh bien... On a envie peut-être de se croire petit garçon. Écoutons ce qu'en disent Clélia et puis Clémence à suivre.
Quand j'avais genre 12-13 ans, j'étais amoureuse d'une camarade de classe qui s'appelait Claire Feuerstein. Déjà, ce nom m'excitait beaucoup, le fait qu'il soit en allemand, la pierre de feu, enfin un truc... Elle avait les cheveux très frisés et elle faisait du tennis. Et donc depuis cet amour dont personne n'a jamais rien su sauf moi, j'ai un gros gros fantasme sur les élastiques de poignet en matière un peu éponge et également sur les t-shirts polo. Voilà, je vous embrasse, au revoir.
Une autre histoire que je peux raconter, dont je garde un souvenir un peu moins joyeux, c'est Sophie. Voilà, je suis au collège. Et Sophie, notre secret, c'était de se retrouver tout le temps et puis là, de faire des jeux de rôle. Le premier jeu de rôle, c'était les sœurs Halliwell. Donc Sophie était Piper et elle me figeait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce mouvement de main. Donc voilà, ça fige les autres. Et puis, quand j'étais figée, elle me faisait un peu ce qu'elle voulait. Bon, ça allait. J'étais consentante. Il y avait Des câlins, des bisous, elle me prenait dans ses bras, elle m'embrassait. Voilà, bon, j'étais un petit peu en PLS, vertical. Mais c'était plutôt cool, enfin, je l'aimais beaucoup. Et puis on faisait aussi des jeux de rôle à partir de chansons de la Star Academy. Et où là, ben, je me suis retrouvée à faire Bernard Lavillier, Marc Lavoine. Et là, pareil, ça finissait en général sur mon lit et on s'embrassait. Et ça a duré comme ça pendant toutes les années collège. Sauf que Sophie, elle m'avait aussi dit que si j'en parlais à qui que ce soit, j'étais morte. Donc voilà, Sophie, c'est l'apprentissage de ce qu'on peut faire quand on est deux petites filles dans une chambre dans la pénombre. Et puis ce qu'on peut pas faire aussi quand on est deux petites filles, mais cette fois en plein jour.
C'est des témoignages extrêmement touchants qu'on a reçus. Et il y a quelque chose de très fort dans ce que vient de dire Clément, c'est à quel point finalement toutes ces... tous ces amours, toutes ces amourettes, mais j'ai pas envie de dire amourettes parce que c'est tous ces amours d'enfants qu'on a vécu et d'enfance qui nous ont été un petit peu volés, en tout cas qu'on nous a obligés à cacher, c'est-à-dire qu'on va les raconter aujourd'hui avec sûrement un peu de tendresse, avec une espèce de nostalgie, mais en fait c'est quand même des moments dont on nous a empêchés de parler.
Ouais, complètement, et enfin, ou surtout aussi qu'on... Moi je pense que moi aussi, je trouve ça très émouvant, parce qu'il suffit de vraiment d'écouter et d'entendre que ça parle d'amour, quoi. Quand Clélia, elle repense à cette petite fille, il y a quelque chose d'important. Et que souvent, on pouvait nous dire que... Enfin, je sais pas comment dire, c'était peut-être notre meilleure amie, ou peut-être qu'on expérimentait des choses, je sais pas quoi. Mais en fait, il y avait aussi de vraies histoires d'amour, en fait. Et bien sûr, elle devait être cachée ou on devait raconter d'autres choses dessus, d'autres récits, parce que c'était impossible que ça existe comme ça. Mais ce que je me dis, c'est peut-être le moment de lire un petit extrait de L'Opoponax, je t'en avais parlé, où je trouve que justement, c'est un roman de Monique Wittig, son premier roman, qui est un roman beaucoup sur l'enfance, mais en fait, il y a toute une histoire d'amour en fait, entre deux petites filles. En tout cas, la narratrice tombe amoureuse. Et en fait, je trouve ça très beau dans le roman, comment c'est écrit, quoi, que c'est une histoire d'amour, c'est une première émotion amoureuse très très intense, et elle le décrit vachement bien, et c'est deux petites filles, et c'est si peu
c'est si rare peu, ouais, dans c'est la littérature,
si rare, exactement, c'est si rare que quand c'est là, c'est... Et moi je me souviens vraiment, moi je me souviens aussi la première fois que je tombais amoureuse, vraiment je m'en souviens, c'était merveilleux, c'était un vrai truc, quoi. Et j'ai dit à ma sœur, je suis amoureuse de Charlotte, et je trouvais ça incroyable. Et j'étais pas amoureuse de Claire ou de Marianne, non, j'étais amoureuse de Charlotte. Et elle m'a tout de suite dit, tu peux pas être amoureuse de Charlotte. Et d'un coup, franchement, ma vie, elle s'est arrêtée là, et elle a repris à 20 ans quand il y a une fille qui m'a roulé une pelle au pulp, quoi.
Alors, comme tu viens de parler de quand t'es tombée amoureuse de Charlotte, j'en profite pour dire, parce que ça fait écho évidemment à un passage de ton dernier livre, De mon plein gré, où tu racontes ce moment-là, et t'as toujours des formules extrêmement puissantes pour raconter ces moments, et tu racontes quand tu dis à ta sœur, je crois, du coup, que t'es lesbienne et qu'elle a ce visage comme si elle avait mordu dans un citron, ce visage de l'acidité. Et tu décris à quel point, enfant, ça t'a marqué de découvrir la chose la plus belle.
Ouais, c'est ça. Et... Alors après, je sais pas à quel point je reconstruis avec mon regard adulte, mais j'ai l'impression qu'en une fraction de seconde, j'avais la même émotion de « c'est la nouvelle la plus importante de toute ma vie et la plus joyeuse ». Et face à ce visage... J'ai aucune résistance en moi. C'est que d'un coup, je me dis, oh mon Dieu, c'est absolument laid. Et dans une fraction de seconde, d'avoir réussi à être persuadée, mais presque toute seule, avec juste ce visage, que effectivement, la plus belle chose que je venais de découvrir devient la chose la plus honteuse. Et c'était très étrange comme sensation, quoi. Et après, ça m'a suivie. Et après, du coup, je raconte aussi que moi, j'ai passé mon enfance aussi, du coup, à prier le soir, le petit Jésus. En lui disant, je veux être un garçon, parce que je crois que dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, en fait, si j'avais été un garçon, ma sœur n'aurait pas eu cette réaction. Donc, pour pouvoir aimer Charlotte sans que les gens viennent de mordre un citron, eh ben, il faut que je sois un petit garçon, quoi.
Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans ton livre, même si ça ne parle pas spécialement d'enfance lesbienne de mon plein gré, mais à quel point ces moments forts qu'on a vécu, qu'on a enfouis après, ne sont pas considérés, ne sont pas comptabilisés aujourd'hui par les adultes. On a l'impression, et je suis persuadée que si des personnes qui ne sont pas des lesbiennes écoutent cette émission, ou qui ne sont pas des petits gays ou des petits trans, écoutent cette émission, ne vont pas se rendre compte, ou j'espère en tout cas vont se rendre compte en t'écoutant, que des choses qui paraissent anodines pour ces adultes, ces parents, des choses qui paraissent être des non-événements, sont pour nous des événements extrêmement forts et qui nous ont construits, qui ont été déterminants après dans la façon dont on va vivre ou pas la vie qu'on va mener.
Ouais, complètement. Et notamment, il y avait un autre souvenir que je raconte quand ma mère m'attrape de force et me met une robe, et tous ces souvenirs aussi qu'on a où on nous imposait le costume d'un genre qui était peut-être qui était soi-disant le nôtre par rapport à notre sexe biologique. Et en fait, tous ces moments-là, ils sont terribles, quoi. Ils nous marquent à vie, c'est sûr. Et ce serait tellement bien qu'on puisse juste s'habiller comme on veut.
Je te propose que tu reprennes ton souffle pour nous faire juste après une lecture de Monique Wittig, et en attendant qu'on écoute le témoignage de Marion, justement, qui est une de nombreuses petites lesbiennes qui, comme toi, comme moi, ou à un moment, ont été peut-être obligées, ou en tout cas, on les a incitées à porter des vêtements qu'elles n'avaient pas envie de porter.
Spectacle de fin d'année de CP. J'ai 6 ans à peu près, et la maîtresse se lance dans un thème qui me va super bien, qui est le sport. Donc c'est toujours un moment un peu excitant, ces spectacles de fin d'année, on sait qu'il va y avoir du monde, des gens qui vont regarder, en particulier la famille, les sœurs, les parents, tout ça. Donc on bosse, on répète une chorégraphie. Je suis hyper soulagée parce que le thème choisi, c'est le tennis, qui me va très bien. Comme c'est un sport individuel, il n'y a pas de séquence où il faut que je danse avec un petit garçon. Donc on peut être tout seul, donc ça c'est super. Donc on bosse, on répète dans la cour de récré et tout. Donc je suis à fond parce que je fais du tennis aussi, donc je suis vraiment, vraiment au top, je trouve ça génial. Mais comme les petites filles, quoi, doivent mettre une robe blanche, une robe de tennis, quoi, comme on l'imagine. Et là c'est vraiment l'angoisse absolue. J'étais mais super super mal, je savais pas comment m'en sortir. C'était juste pas possible pour moi d'imaginer d'être en robe. J'en mettais jamais, et je trouvais qu'on pouvait rien faire avec une robe, on peut pas bouger, on peut pas courir, c'était vraiment nul. Et en plus, je comprenais pas très bien parce que pourquoi ça devait être comme ça alors que moi je faisais du tennis et que par ailleurs je jouais en short, donc il y avait pas besoin d'être en robe pour jouer au tennis et être une fille, quoi. Donc c'était vraiment l'angoisse. Et en fait, heureusement pour moi, il y avait plus de petites filles que de petits garçons dans la classe. Et du coup, il a fallu que certaines filles mettent des shorts. Et du coup, évidemment, je me suis portée volontaire tout de suite. Donc, je m'en suis sortie comme ça. Et donc, j'ai eu le droit de mettre un short blanc, qui était mon short de tennis d'ailleurs, et un t-shirt blanc au lieu de mettre une robe. Donc, c'était... Voilà, je m'en suis sortie comme ça. Mais effectivement, la casse petite fille habillée en robe, ça marchait pas. Voilà.
Marion s'en est sortie. Et nous aussi, vous êtes toujours dans Du Poil Sous les Bras, on est avec Mathilde Forger, qui pendant un court instant va se mettre dans la peau de Monique Wittig et va nous lire un extrait d'un roman qu'elle a choisi, Opoponax, un roman de 1964, un des effectivement extrêmement rares écrits sur le monde de l'enfance lesbienne.
Oui, je voulais peut-être l'introduire un peu, parce que c'est vrai qu'il est assez particulier dans sa construction, et peut-être que du coup, en extrait, c'est plus compliqué de rentrer dans la musique et dans la langue de Wittig. Mais du coup, ce qu'elle fait, et qui est vraiment merveilleux sur la question de l'enfance, c'est qu'elle enchaîne plein de petits événements avec d'une manière un peu... j'ai plus le mot, mais quand on va un peu rapidement, mais comme les enfants ils font, quoi. C'est genre, j'étais à l'école et Nicolas il a fait ça et on a renversé une gourde et après on passe complètement ailleurs, on était à la boulangerie et j'ai mangé 3 pains au chocolat, et voilà. Et donc elle reproduit ça assez merveilleusement dans sa langue. Et donc là c'est un extrait où donc il y a plein d'enfants, quoi, et petit à petit il y a Valérie Borges qui prend un peu plus d'importance que les autres enfants, et parce que la narratrice, donc Catherine Legrand, en fait est amoureuse de Valérie Borges. Donc je vais lire un petit extrait. Catherine Legrand se déplace dans la cour de récréation et où qu'elle soit, elle n'arrête pas de regarder Valérie Borges, même en marchant, en faisant oui ou non de la tête, comme pour répondre à ce que Denis Cos dit. Valérie Borges renverse la tête en parlant.
On voit son cou nu se courber, on voit le bombement de la gorge à l'endroit de la glande thyroïde. Valérie Borges écarte les lèvres pour certaines syllabes, ce qui fait qu'on lui voit les dents et les gencives roses. Maintenant, on voit qu'elle baisse les paupières sur les yeux et se tait. Anne-Marie Brunet se met à rire. Catherine Legrand voit qu'elle prend la main de Valérie Borges, qu'elle la secoue dans ses deux mains fermées. Valérie Borges parle de nouveau, elle regarde devant elle, à moitié la terre du jardin, à moitié rien. Valérie Borges ne regarde pas Catherine Legrand. Alors, Catherine Legrand s'approche du groupe où est Valérie Borges, suivie de Denis Kos. Valérie Borges ne remarque pas que le groupe qui l'entoure s'est grossi de Denis Kos et de Catherine Legrand. Catherine Legrand fait des trous dans la terre avec ses chaussures, enfonce ses mains dans les poches de la blouse, l'une d'elles a un mouchoir que Catherine Legrand se met à triturer, à sortir de la poche, à déchirer en tirant dans tous les sens jusqu'à ce que le tissu cède.
On brûlera toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre, mon ange. Et je veux partir avec toi.
On a l'impression que la musique est finie. Et la musique est finie, effectivement, c'est ça. Et c'était Pomme, Pomme avec On brûlera. Pomme qui est lesbienne et Pomme qui est un choix musical de mon invitée, Mathilde Forger.
Oui, ça me faisait plaisir d'entendre cette chanson où elle écrit à sa mère et elle dit « Bon, bah voilà, je préfère brûler et être avec mon amoureuse, même si je dois brûler en enfer. » Voilà. Et puis, ça me faisait plaisir aussi de passer... une chanson de... Enfin, en ce moment, il y a plein de chanteuses aussi qui sont lesbiennes et qui ont de la visibilité et tout ça. Et je me souviens que moi, je faisais de la chanson, c'était il y a 6 ans, 7 ans, il n'y avait pas autant de meufs qui chantaient et qui étaient ouvertement lesbiennes et qui en parlaient dans leurs chansons. Et c'est trop cool, quoi.
C'est vrai que là, je comprends un peu que les hétéros s'inquiètent, parce que la plupart des personnes connues et talentueuses sont lesbiennes. Enfin, pour être clair, posez-vous la question la prochaine fois que vous écouterez un morceau de musique. Si c'est un bon choix, il y a quand même de fortes chances que la personne soit lesbienne. Alors moi, j'ai pas du tout envie de brûler en enfer et j'ai envie de rester avec mon amoureuse. Et ça tombe bien, on va l'écouter, je crois bien, dans un instant.
Du poil sous les bras.
Bah moi, quand j'étais petite, je suis née dans une famille de 4 et je suis la troisième. J'ai longtemps été persuadée que j'étais un garçon parce que c'était un désir, quoi, un désir profond. J'avais plein de qualités de garçon et puis en plus, j'avais mes parents, ils ont donné des noms différents. Donc dans ma tête, j'étais dans le clan des garçons, quoi, puisque en fait, mon frère, mon père et moi, on avait tous le même nom de famille. Et du coup, moi, je me disais... Enfin, il y avait le clan des garçons et le clan des filles. Et du coup, tout ça, ça a bien marché comme délire pendant un petit moment, quoi. J'étais pas spécialement garçon manqué, mais j'étais casse-cou. J'étais pas bagarreuse, mais j'étais... casse-cou, sportive, grande gueule. Voilà. Jusqu'au jour où... quand j'ai eu des petits seins qui ont poussé, ça a pas trop foutu le bordel. Non, le jour où j'ai eu mes règles, j'étais dans une colère, mais noire, quoi. Je me rappelle très bien, c'était à 10h aux toilettes du collège, j'étais en troisième, et j'avais trouvé du sang donc sur le papier toilette et dans ma culotte, et du coup là, je sentais que c'était le sang de la trahison, quoi, que en fait, j'allais pas être un garçon, quoi. Et après, mon corps s'est mis à se déformer, je suis devenue, avec des courbes hyper genrées meuf, quoi. Donc, gros seins, gros cul. Et à avoir des regards libidineux hyper genrés qui se posaient sur moi. Et j'avais vraiment l'impression que c'était ma punition d'avoir voulu être un garçon. Mon corps, la nature ressortait partout dans moi pour me dire, non, en fait, tu vois, en fait, t'es une fille. Et c'est ça ta vie. Et en plus, t'es une fille sexuée, quoi. Sexuée, et c'est ça ta place. Voilà, c'est comme ça que j'ai vécu mon adolescence. Voilà.
Un témoignage, là encore, extrêmement fort. Ils sont tous très beaux, ces témoignages, qui nous amènent, en tout cas, à parler de tous ces non-dits, de toutes ces choses qu'on a vécues, qui nous ont des fois profondément marquées, qui ne sont pas discutées. Ariane, là, parle, par exemple, des règles. Bon, les règles, moi qui ne suis pas encore ménopausée, mais j'attends ça avec impatience, évidemment. Et à l'époque, je n'attendais pas ça avec impatience. Et quand est-ce arrivé, ça a été aussi des mini-traumas. Elle parle même de trahison du corps, qui se venge, qui... Il y a tout ça dans nos petites enfances lesbiennes, tous ces moments de souffrance, de micro-agressions, de choses qui ont été des mini-traumas avec lesquels, finalement, on va se construire.
Oui, oui. Et puis, là, en écoutant son témoignage, je pense vachement à d'autres témoignages de copines qui ont, en fait, à un moment donné, été obligées, par la sexualisation de leur corps, par tout ça, de en fait, jouer le jeu de l'hétérosexualité pendant des années, et qu'en fait elles ont perdu des années aussi où ça a été ultra violent pour elles parce que c'était pas leur sexualité. Et en fait, peut-être là à la radio aussi, si on peut dire aux parents l'importance aussi qu'ils devraient avoir à bien être attentifs à leurs enfants et à voir si jamais ils ou elles sont lesbiennes ou PD ou trans, à les accompagner pour pas les laisser tout seuls s'obliger à une hétérosexualité ou à un genre qui est pas le leur, et en fait après à passer peut-être d'une enfant joyeuse où on était ce qu'on était, ce qu'on voulait être, à des années où on est pas qui on est et où on se force à faire des choses, et en fait c'est terrible. Et après on se réveille à 35 ans et en fait on se dit putain, mais en fait on m'a volé tellement d'années, et en fait c'est tellement violent aussi.
Et on découvre aussi dans le témoignage que très tôt, il y a, elle parle de regards libidineux qui se posent sur le corps des femmes, donc très tôt on découvre en plus ces violences-là, alors qu'on soit une petite lesbienne ou une petite hétéro, on va découvrir ça, mais c'est vrai que nous, quelque part, je dis nous, moi en tant que lesbienne, on va nous empêcher en plus de nous prémunir de ça, de sortir, on va nous continuer de nous obliger à répondre à ces normes, notamment vestimentaires, alors qu'en plus, elles ne servent pas à baisser les violences qu'on va subir. Par exemple, de regards libidineux, ça peut pas. Et les parents, je pense, ne voient pas peut-être à quel point c'est des choses extrêmement violentes. Ils ont tendance à minimiser ça, ou à pas le voir.
Ouais, et même on peut se demander à quel point ça rassure aussi. Peut-être, enfin, ça rassure. C'est-à-dire qu'il y a comme un côté, enfin... Ou oui, donc voilà, donc elle s'habille un peu comme un garçon, elle fait ceci, cela, jusqu'à 10 ans, c'est ok, jusqu'à 12 ans, on s'en fout. Et puis à un moment donné, genre, bon bah, vers 14 ans, vers 15 ans, vers 18 ans, en fait, tu vas reprendre ton rôle, qui est en fait un rôle de femme, donc un rôle aussi de corps désiré, et les choses rentrent dans l'ordre, quoi. Et du coup, ça efface aussi toutes nos enfances, parce qu'en fait, avant, c'était un peu, voilà, c'était un peu le moment de la récré, quoi. Et maintenant, t'es une femme, et donc tu es un objet de désir pour les garçons, et c'est comme ça que les choses vont rentrer dans l'ordre, que le patriarcat va pouvoir, voilà. fleurir, et voilà.
Et là, on est, nous, entre lesbiennes, je peux dire ça sans te outer, mais c'est pareil pour les petits garçons, ou est-ce que tu penses qu'il y a, dans les enfances lesbiennes et les enfances gays, des violences alors comparables, ou au contraire, assez différentes? C'est vrai que les petits garçons, bah, ils naissent dans le genre dominant, quand ils sont gays, et qu'eux, à l'inverse, ont envie de mettre des robes, ou...
Bah eux sont victimes de misogynie, en fait, on pourrait dire ça, et peut-être que bah les petites filles dans leur enfance, quand elles jouent aux garçons, quand elles sont les garçons, ça dérange pas trop, quoi. C'est mais un petit garçon pédé, je pense que lui il se prend la violence de la misogynie, en fait, pour le coup. C'est une vraie question que je me pose. En fait, en ce moment aussi, je me suis demandé, voilà, c'est vrai qu'il y a plus de récits de par exemple, grâce à Édouard Louis, d'enfance où il y a des humiliations collectives très claires sur des petits garçons pédés. Et il y a moins de récits, j'ai l'impression, comme ça, chez les lesbiennes. Je sais pas si c'est parce que ça se joue ailleurs, autrement. Moi, je me suis demandé, mais après, la violence, elle peut être... Moi, je me souviens, par exemple, j'étais en classe théâtre, et ce qui était trop cool, c'est que du coup, on était plein de filles, donc je pouvais faire les rôles des garçons. Mais je me souviens d'une fois où on m'a imposé le rôle d'un personnage féminin, donc j'ai dû mettre des talons. Mais vraiment, pour moi, c'était une humiliation. Enfin, j'y ai pensé tout le temps, j'y pense encore. Ça me fait des frissons où j'ai dû mettre des talons. Et en fait, c'était horrible, quoi, devant toute la classe. En plus, les gens savaient, enfin, me connaissaient. Donc, c'est genre, ah, Mathilde a mis des talons, c'est incroyable. Donc, tout le monde est un peu sous de ta gueule. Pour moi, ça, c'est des humiliations collectives. Après, c'est pas un crachat dans la gueule, celle lesbienne, mais c'est un truc de... T'es pas comme ils font, on va te mettre des talons, on va te mettre du maquillage, et c'est la même violence aussi, quand même.
Au début, il y a eu Floriane. Floriane, c'était ma camarade de classe. Je devais être au CP ou en CE1, et on avait ce stratagème dont mon souvenir, il n'a jamais été... question explicitement, je crois qu'on n'a jamais vraiment posé de mots dessus, mais en gros il y en avait toujours une de nous deux qui prétendait être malade, et donc on levait la main en classe et elle disait qu'elle se sentait mal et qu'elle voulait aller à l'infirmerie, et là ni une ni deux, l'autre levait la main en se précipitant en disant je peux l'accompagner. Et donc on s'accompagnait l'une et l'autre, et on s'est accompagnés beaucoup de fois comme ça jusqu'à l'infirmerie de l'école. Et on s'allongeait côte à côte, et là aussi je me souviens pas de parole en fait. Et on se frottait, enfin on faisait des trucs un peu bizarres en fait, on se frottait la braguette de nos jeans l'une et l'autre. Je pense qu'on avait remarqué que... Voilà, ce frottement provoquait comme une vague de chaleur. Donc voilà, nous étions de fines stratèges, et j'en souviens très distinctement, et je suis encore surprise aujourd'hui de me dire que on a fait ça peut-être pendant une ou deux années scolaires, et que je me souviens d'aucune parole produite autour de ces petits rendez-vous.
Ah, le fameux frottement de braguettes de nos enfances lesbiennes.
Oui, qui n'est d'ailleurs jamais considéré comme une masturbation. Alors, les petits garçons se touchent le zizi tout le temps, ils disent voilà, les petites filles jamais. Enfin, là, c'est juste le récit de, pour moi, de petites filles qui se masturbent ensemble, non?
Ah, bah, complètement. Mais, et pour rebondir sur ce qu'on vient de dire sur les enfances petits garçons, petites filles, bah, à force de toute façon minorer la sexualité des filles, de l'invisibiliser, de même pas la penser, c'est aussi ce qui fait que finalement on a été moins humiliés collectivement ou peut-être moins agressés à ce niveau-là parce que les gens considéraient ça comme,
ouais, ouais,
comme un frottement, rien d'autre. On sait aujourd'hui que frotter le clitoris, excusez du peu, c'est vrai qu'ils sont chouettes ces témoignages au sens où vraiment ils donnent à voir des choses que je pense personne ne va voir. Même pas parce qu'ils ne veulent pas les voir, juste parce que en fait, ça n'existe pas dans le monde des parents hétéros ou de gens qui ne peuvent pas, par exemple, penser que deux femmes peuvent avoir de toute façon des relations sexuelles. Ils n'arrivent même pas à nous voir amoureuses. Alors, en plus, avoir des actes sexuels, c'est de l'ordre de l'impensable, non, pour la plupart des parents et des adultes aujourd'hui.
Que les femmes peuvent faire l'amour ensemble.
Oui, c'est ça. Mais non, mais et que même enfant, on peut avoir aussi enfants ou en tout cas
petites
jeunes,
filles. Oui, voilà. Complètement. Mais oui, complètement. Il y a vachement ce truc-là que les petites filles, ça n'existe pas trop. Moi, j'avais une copine qui me raconte, elle a passé toute sa petite enfance à se masturber, quoi. Vraiment, genre voilà. Et moi aussi, je me souviens qu'une fois avec une copine, on était en pyjama et on a commencé à se frotter l'une sur l'autre. Donc on était clairement aussi en train d'expérimenter des choses sexuelles et tout, et c'est vrai qu'on le raconte pas, quoi, chez les petites filles.
Il y a aussi une fois où j'ai capté que j'aimais une fille, je savais pas trop quel type d'amour c'était, j'avais 15 ans, mais je sentais que je l'aimais, que c'était pas qu'une amie, que je l'aimais, quoi, mais je savais pas trop décrire comment, j'avais pas de désir sexuel ou quoi que ce soit. J'avais pas franchement de désir sexuel pour des garçons non plus. Et voilà.
Et voilà, je suis toujours avec Mathilde Forget. On parle enfance lesbienne. Et ce n'est pas un hasard si on parle enfance lesbienne, parce que c'est aussi un projet que tu as de produire un écrit à propos de ces enfances lesbiennes. Et on le disait tout à l'heure quand tu as lu un extrait de Monique Wittig, il y a tellement peu de choses à ce sujet et peu de mots à mettre dessus. Que je pense que ce serait en tout cas extrêmement intéressant, voilà, qu'aujourd'hui des autrices comme toi, comme d'autres, et des personnes qui ont envie de parler de ce sujet-là, proposent des...
Récemment, il y a eu Fatima Das un peu dans son roman La Petite Dernière, où elle parle justement de son enfance, où elle a l'impression qu'elle n'est pas comme les autres, parce qu'elle va être un petit garçon, tout ça, qu'elle est amoureuse des filles. Et en fait, c'était fou comme en fait, j'avais l'impression que c'était... pas la première fois, mais presque, je lisais quelque chose qui racontait mon enfance. Et après, donc, du coup, j'ai voulu chercher s'il y a d'autres choses qui existaient. Donc, je suis tombée sur le Poponax après. Mais je me disais qu'il n'y en avait pas beaucoup et que j'avais vachement envie d'écrire là-dessus, effectivement. Que j'ai l'impression que c'est des choses qui étaient un peu dans mes deux romans, mais où je tournais autour. Et que peut-être, là, j'ai envie de m'y confronter plus frontalement et d'écrire sur ça, ouais. Sur l'enfance... sur l'enfance, mais de ce côté-là, quoi, l'enfance d'une lesbienne, en fait.
Oui, c'est vrai que dans les deux romans, y a des moments où ça surgit, où quand même ces souvenirs d'enfance font du lien avec ta vie d'adulte, en tout cas ce qui se passe dans les romans dont tu parles, et permettent de mettre un peu ça en perspective. Ils apportent aussi quelque chose à tes deux romans, qui par ailleurs ne sont pas effectivement sur l'enfance lesbienne.
Ouais. Après, dans le deuxième, c'est vachement parce que c'est aussi une réflexion sur la honte. Et en fait, je me rends compte aussi à quel point j'ai grandi dans la honte, quoi, et à quel point c'est terrible. Et finalement, l'écriture, j'aime penser que ce qui nourrit mes premiers gestes d'écriture, c'est la question de la honte. Et peut-être que celle-là, j'osais pas y aller ou j'avais peur, mais que c'est peut-être la plus importante de toute ma vie, quoi. Qu'est-ce qui fait que petite, en fait, je me suis emmurée dans la honte, à la fois parce que j'étais pas une fille soi-disant comme les autres, ou que j'aimais les autres petites filles, quoi.
chérie, comme le temps est loin, où tu étais ici, qui s'enfuit le parfum que je croyais sentir toujours. Mon amour, mon ami, si je me souviens, quand tu es parti, j'étais en plein déclin, je voyais planer les vautours. L'histoire est un machin.
Filtia, Carla Palone et Julia Lano, ou Lanoé, je ne sais pas trop bien comment on dit, la Rebecca Warrior, en tout cas de Sexy Sushi, et qui officie aussi dans le groupe Compromat. C'était le parfum des vautours qu'on a entendu, une chanson de leur dernier album. Un choix à nouveau de Mathilde Forger, mon invitée aujourd'hui, pour parler des enfances lesbiennes. Et on parlait à l'instant de la honte. De la honte de ces enfances qu'on a vécues, qui sont souvent du coup des souvenirs aussi de solitude, d'incompréhension, de douleur. Bon, on pourrait croire comme ça que c'est un peu l'horreur d'avoir une enfance lesbienne. Pas vraiment,
mais il y a des moments qui sont très douloureux. Oui, oui. Moi, je me souviens vraiment d'un espèce de désespoir et de me dire comment je vais faire si je dois être une fille féminine et que je dois aimer les garçons et que c'est quelque chose que je ne peux absolument pas faire ou qui va me rendre très malheureuse, quoi. Et j'étais vraiment désespérée, quoi. Je me disais, bon, voilà, j'ai 8 ans, il va me rester combien d'années à faire semblant? Enfin, c'était comme un casse-tête, quoi. Je me disais, c'est horrible, il y a forcément une sortie, quoi, quelque part. Et moi, j'ai mis énormément de temps, en fait, à dire que je suis lesbienne, vraiment beaucoup beaucoup, quoi. J'ai même après même en étant en couple avec des filles, quoi, je pense que ça fait que 4-5 ans, quoi, vraiment que je le dis et que ça me fait plus peur. J'avais toujours peur, en fait, qu'il se passe un truc. On a toujours peur qu'il se passe un truc parce que la lesbophobie existe vraiment. Donc quand tu le dis, tu sais pas ce qui va se passer en face. Tu sais pas si tu vas être rejeté, tu sais pas si tu vas être carrément frappé, tu sais pas si tu vas perdre ton emploi, tu sais pas si tu vas perdre tes amis, perdre ta famille. Tu sais qu'il va y avoir une réaction. Enfin, je veux dire, on grandit avec en revanche, la lesbophobie, ça, on sait que ça existe, quoi. Et donc, de le dire, c'est prendre un risque, en fait, dans une société lesbophobe. Donc, des fois, bah, on peut mettre des années et des années et des années à oser le dire, quoi.
Moi, j'ai un souvenir d'enfance, d'enfance-adolescence, mais j'ai ce souvenir d'un jour, on me dit « Mais est-ce que t'es lesbienne ?» En famille, comme ça. Mmh. Et évidemment, mon réflexe a été une honte absolue et de dire « Bien sûr que non !» Et ce qui est fou, quand j'y repense aujourd'hui, c'est de me dire « Ça veut dire que eux, mes parents, ma famille, ont bien vu à un moment... » que je m'habillais comme un garçon, que j'avais quand même à peu près tous les codes de ce que pouvait imaginer être une lesbienne, et qu'au lieu d'amener ça peut-être de façon plus douce, l'amener, alors c'est peut-être maladroitement, mais en tout cas ça a fait que moi j'ai enterré le sujet pendant des années derrière. Et je me dis, c'est dommage de peut-être pas comprendre qu'à ce moment-là, s'ils ont envie d'aider leurs enfants, les parents, il ne faut pas non plus qu'ils le fassent de façon trop...
Moi, je pense qu'il faut qu'ils le fassent peut-être de façon détournée. Et ça peut être, par exemple, que ça existe, en fait. D'aller voir un film ensemble où on sait que ça parle d'une lesbienne. Peut-être de manière détournée, de faire comprendre à son enfant qu'en fait, on est au courant que ça existe et que c'est OK. Et que peut-être, du coup, s'il grandit dans un environnement où, en fait, tout ça existe, à un moment donné, il pourra dire que ça le concerne.
Une fois, quand j'étais enfant, on arrivait en vacances en Auvergne dans la maison, et il y avait déjà des gens. Et quand on est sorti de la voiture, il y avait des garçons, des enfants qui étaient perchés sur la barrière en bois, comme des oiseaux. Et puis ma sœur, elle est allée se percher aussi sur la barrière, et ils l'ont chassée, ils l'ont pas laissée. Et moi, je suis arrivée, je me suis perchée aussi. Et ils n'ont pas bronché, ils m'ont laissé rester avec eux.
Ils l'ont laissé rester avec eux, voilà. Élodie qui témoigne aussi de ça, que on est accepté des fois aussi quand même. Et c'était pour terminer sur un témoignage plus gai finalement, parce que Élodie, et ça nous est arrivé à toutes, et c'est ce qui arrive au petit Michael de Tomboy, à Jo quand elle se fait appeler Nicolas, c'est qu'on est accepté. S'il n'y avait pas ces barrières adultes, ça pourrait très bien se passer, en fait. Et ça se passe parfois aussi très bien.
Oui, oui, complètement. Ça se passe parfois aussi très bien. Et effectivement, s'il n'y a pas les barrières adultes et de la société, franchement, on s'organiserait bien entre nous, là, je pense. Peut-être juste, là, en t'écoutant, je me dis, c'est aussi pour ça que c'est hyper important, toutes ces chanteuses qui aussi s'adressent à des jeunes publics, genre Angèle. Moi, je me suis vraiment dit, si quand j'étais petite fille... l'idole des petites filles, à un moment donné, s'affichait sur les réseaux sociaux avec sa petite copine, en fait, je me serais dit « Ah, mais donc, en fait, c'est possible. C'est en plus quelqu'un qui est aimé, là, qui fait ça. » Et donc, ça se trouve, j'aurais eu une enfance de petite lesbienne assumée et j'aurais eu des petites copines et je sais pas. Je pense que ce qu'elle a fait, parce qu'elle est très, très écoutée, et même en plus par les familles. Je dirais, Angèle aussi, c'est des parents qui aiment et tout. Et c'est hyper important, en fait, les coming out de célébrités. Vraiment.
Et avant de se quitter, parce que l'émission va toucher à sa fin, l'émission s'appelle Du poil sous les bras. Moi, j'ai quand même envie de t'entendre, Mathilde, nous dire quel est ton rapport au poil. Qu'est-ce que tu penses de tes poils? Est-ce que les poils, c'est un sujet pour toi? Est-ce que c'est pas un sujet? Est-ce que passer, il n'y a rien à voir?
Mon rapport au poil, je sais pas. J'ai pas trop de rapport à mes poils. Enfin, bref. Mais tu m'as dit hors émission que je pouvais parler des cheveux. En revanche... je peux dire pour terminer sur une note amoureuse que j'ai une amoureuse qui a des boucles et que je suis complètement amoureuse de ces boucles.
Ces boucles-là, le cheveu est un poil comme un autre. Et cette question sur les poils est tombée comme un poil sur la soupe dans cette émission, mais j'aurais pu vous amener ça plus doucement, mais non, parce que bientôt il est l'heure de rendre l'antenne.
I am what I am, I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am
difference.